Douard Elite, la carte prestige de Banque Atlantique qui vous donne accès à plus de 1000 salons d'aéroports Launchkey et à des offres exclusives, vous propose Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Bonjour.
Bonjour, ravi de terminer la semaine avec vous, avec Appel sur l'actualité. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc vous connaissez le principe, c'est la libre antenne. Dans une demi-heure, vous interviendrez sur les sujets qui vous ont intéressé cette semaine. Vous commenterez les affres de la politique sénégalaise, du silence de Macky Sall sur un éventuel troisième mandat au démêlé d'Ousmane Sonko avec la justice. Vous saluerez le premier verdict rendu à Bangui par la Cour pénale spéciale qui jugeait trois membres d'un groupe armé. Et puis vous débattrez du recrutement au Burkina Faso de quelques 50 000 volontaires civils pour aider l'armée à gagner la guerre contre les djihadistes. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Au Mali, de nouveaux affrontements entre le JNIM et le IGS ont eu lieu cette semaine dans la région de Ménaka. Fousseni, bonjour. Fousseni ?
Comment expliquer ? Oui, bonjour.
Ah, bonjour. Vous nous appelez de Bamako. En ligne de Dakar, Serge Daniel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Serge, vous êtes notre correspondant régional en charge du Sahel. On va parler de la situation donc, au Mali avec vous. Mais d'abord, Fousseni, quelles sont vos questions pour Serge Daniel ?
Okay. Comment expliquer les combats violents de l'État islamique au Grand Sahara et le JNIM ? Et qu'est-ce qui les oppose ?
Alors Serge Daniel, on peut commencer par rappeler donc ce que signifient ces deux acronymes, JNIM et EIGS.
Oui, tout à fait. Le JNIM, c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et dirigé par un Malien, Yadar Ali. Et le JNIM a fait allégeance à Al-Qaïda. Alors que l'État islamique au Grand Sahara, qu'il faut appeler d'ailleurs désormais l'État islamique au Sahel, a fait plutôt, et c'est un groupe djihadiste, mais qui a fait allégeance plutôt à Daesh.
Alors qu'est-ce qui différencie ces deux groupes ? Pourquoi s'affrontent-ils sur le terrain ?
Alors, il faut dire que les affrontements sont violents. On a, hier encore, ce jeudi, il y a eu des affrontements signalés à 50 km à l'ouest de la ville de Ménaka, dans le nord. Alors, les affrontements, dans un premier temps, étaient au centre, mais maintenant, au nord, ils se battent pour contrôler le terrain, parce que qui contrôle le terrain contrôle les terres cultivées, contrôle le bétail et qui contrôle le terrain, recrute, organise des trafics, a de l'influence. Et ce qui frappe aujourd'hui, c'est le degré de violence de ces combats. Il y a des bilans contradictoires et une certitude de nombreuses victimes civiles, des civils qui fuient les zones de combat. Alors, qu'est-ce qui oppose ces groupes ? Alors, ces deux groupes rivaux prônent le djihad, mais ont des ambitions différentes. Le JNIM, par exemple, ne se contenterait essentiellement de l'application de la charia, notamment dans le nord du Mali, du départ de toutes les troupes étrangères, alors que l'objectif de l'État islamique est de créer un califat avec un émir, dans un premier temps, selon les experts, entre Tillabéri au Niger et la région de Ménaka.
Et est-ce que l'armée malienne est présente dans cette région de Ménaka ?
Non, en partie, mais de manière nominale, de manière apparente, de manière symbolique. Le terrain appartient, disons-le clairement, aux djihadistes dans cette zone.
Fousseni, vous avez une autre question pour Serge Daniel.
Oui, les JNIM et certains groupes de la CIMA apparemment se battraient ensemble. Qu'en est-il réellement ?
Serge, il arrive qu'il y ait collusion entre les deux groupes face à un ennemi commun ?
Ah oui, tout à fait, Chantal, tout à fait, Fousseni. Et c'est la nouvelle donne locale. Vous avez la CEMA, qui est l'ex-rébellion à dominante Touareg, basée, comme vous le savez, dans la région de Kidal, qui a officiellement dépêché sur le terrain une centaine de véhicules armés à Ménaka, dans la région de Ménaka. Alors pourquoi on retrouve ensemble, pour combattre l'État islamique, des groupes comme le Gatia, le MSA de Moussa à Charatouman, et la CEMA et le JNIM ? Ce sont des groupes à dominante Touareg, il faut le savoir. Or, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent protéger, ces groupes veulent protéger les populations civiles. Donc, alliance ponctuelle, disent-ils. Mais en face, il faut savoir aussi que l'État islamique reçoit aussi des soutiens venus du Niger, du Nigeria et même du Cameroun, voire du Moyen-Orient via la Libye. Et vous le voyez, le nord du Mali, le Sahel, j'allais dire, et le Sahel est devenu un petit carreau de feu dans le ventre du monde.
Merci beaucoup Serge pour ces explications. À très bientôt sur l'antenne. Et je remercie nos confrères de la rédaction en Mandincan de RFI à Dakar d'avoir permis ce duplex avec vous. Fousseni, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Bamako. En Israël, l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, poursuivi par la justice, s'apprête pourtant à retrouver le pouvoir. Les résultats définitifs des législatives sont tombés. Le bloc de droite obtient 64 sièges sur 120 à la Knesset. Eymar, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Libreville au Gabon. En ligne avec nous, Sami Boukhelifa, correspondant permanent de RFI à Jérusalem. Bonjour Sami.
Bonjour à tous.
Eymar, on vous écoute.
Alors, j'ai deux questions sur Israël. Mardi dernier, les Israéliens sont allés voter pour la cinquième fois en trois ans pour élire leurs députés. Comment expliquer que le parti de Netanyahou soit en tête des résultats, alors qu'il est impliqué, lui, Bibi, dans des affaires de corruption?
Sami Boukhelifa.
Alors pourquoi le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, est la première force politique du pays? Eh bien parce que le Likoud a des électeurs fidèles, il y a un socle électoral solide. Depuis 2019 et le début de la crise politique en Israël, le Likoud a toujours raflé le plus de voix. Et que pensent les électeurs de Benjamin Netanyahou des démêlés avec la justice, de ces démêlés avec la justice? Eh bien évidemment, je leur ai déjà posé la question plein de fois et comme ils disent, ça n'a aucune importance pour eux parce que Benjamin Netanyahou en Israël, c'est au-delà du simple Premier ministre, c'est au-delà du simple chef de parti politique. Benjamin Netanyahou est surnommé Bibi et Bibi a créé un courant de pensée, une idéologie, ça s'appelle le bibisme. Il fédère une importante partie de la population israélienne, ses électeurs sont des fidèles parmi les fidèles. Ils rejettent tout soupçon qui pèse sur leur chef de file. Pour eux, cette accusation de corruption, ce n'est finalement qu'une machination. Le système judiciaire serait, selon eux, pris en otage par des magistrats gauchistes qui souhaiterait faire tomber le roi Bibi, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est comme ça qu'ils appellent Benjamin Netanyahou, Bibi Hamaler. Et s'il est le Premier ministre le plus pérenne de l'histoire de l'État hébreu, ce n'est pas par hasard.
D'ailleurs, Sami, lorsque l'année dernière il a été chassé du pouvoir, ce n'est pas parce que son parti avait perdu.
Oui, au contraire, son parti était toujours la première force politique du pays, mais il y a eu une coalition contre lui. Un ensemble de partis politiques ont uni leurs forces pour l'écarter du pouvoir. Ça a été la coalition la plus hétéroclite de l'histoire d'Israël. Elle était composée de formations de la droite, du centre, de la gauche et d'un parti arabe. Sur le papier, rien ne rassemblait ces partis, sauf leur volonté de chasser Benjamin Netanyahou du pouvoir. Et j'ai bien dit qu'il y avait des partis de la droite et du centre droit qui ont participé à cette coalition anti-Bibi. Pourquoi ? Parce qu'il est très clivant, c'est un animal politique. Son seul objectif, c'est d'être au pouvoir et il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Et ça, ça ne plaît pas toujours.
Eymar, vous avez une deuxième question.
Oui, j'aimerais savoir si ces nouvelles élections législatives peuvent-elles régler l'instabilité gouvernementale qui dure depuis trois ans en Israël ?
Sami ?
Alors là, je dis joker. Alors honnêtement, je l'ignore et je ne pense pas que qui que ce soit puisse s'aventurer à faire des prédictions sur la politique israélienne. Ce que je peux vous dire uniquement, c'est qu'à l'issue de cet énième scrutin, Benjamin Netanyahou peut réunir une coalition reposant sur une majorité relativement confortable. Il peut compter sur le soutien de ses traditionnels alliés, les partis religieux ultra-orthodoxes et aussi désormais sur l'extrême droite israélienne. En Israël, vous savez, les gens votent pour élire 120 députés. Benjamin Netanyahou et ses alliés viennent de remporter 64 sièges. C'est plus qu'assez pour gouverner, du moins en théorie, car Bibi va devoir composer donc avec cette extrême droite. Et rien n'est gratuit. Les partis de l'extrême droite réclament des ministères importants dans le futur gouvernement, la défense et l'intérieur notamment.
Et Bibi est-il prêt à faire des concessions, Sami ?
Difficile à dire, d'abord parce que les ministères régaliens sont traditionnellement réservés aux membres de son propre parti. Ensuite, comment gérer les relations internationales d'Israël et notamment avec Washington lorsqu'on a l'extrême droite au pouvoir? L'extrême droite israélienne, vous savez, elle est l'héritière d'une idéologie extrémiste juive qu'on appelle le kahanisme. Et les kahanistes sont considérés comme une organisation terroriste aux États-Unis. Dans les années 90, un terroriste israélien issu de ce mouvement sioniste religieux a commis commis un massacre à Hébron en s'attaquant à des fidèles palestiniens en train de prier. Il a tué 29 personnes. Et c'est cette extrême droite raciste, homophobe, profondément anti-arabe qui va se retrouver aujourd'hui au pouvoir avec Benjamin Netanyahou. L'unique projet politique de ces gens, c'est d'accroître la répression à l'encontre des Palestiniens, c'est d'affaiblir le système judiciaire israélien. Ils ne s'en cachent même pas. Ils ne veulent pas de contre-pouvoir. Ils veulent concentrer tous les pouvoirs à la Knesset, le Parlement israélien, et avoir des juges aux ordres avec un agenda juif, sioniste. C'est eux qui le disent, ils le déclarent publiquement. Alors, Bibi est-il prêt à pactiser avec le diable pour revenir au pouvoir? J'aurais tendance à dire oui, mais pour combien de temps? Combien de temps cela durera? On verra bien.
Merci Samy d'avoir été en ligne avec nous. Aymar, merci de nous avoir appelés. Bon week-end à tous les deux. On reste au Proche-Orient. Le Liban est désormais un pays sans président. Blaise, bonjour.
Bonjour Françoise et bienvenue à Boisflay, en Côte d'Ivoire.
Non, moi c'est Chantal, pas Françoise, mais c'est pas grave.
Pardon.
Vous nous appelez donc de Boisflay, en ligne avec nous, Guilhem Delteil, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour.
Vous êtes
Blaise.
Journaliste au service international de RFI, spécialiste du Proche-Orient. Blaise, vous avez la parole.
Alors, après 6 ans à la tête du Liban, le président Michel Aoun a quitté le pouvoir en plein milieu de la pire crise économique du pays. Une foule s'est rassemblée devant la présidence pour l'acclamer. Comment expliquer un tel succès populaire malgré un bilan négatif? Pourquoi ce jour, il n'y a toujours pas de successeur?
Alors Guilhem Delteil, Michel Aoun a donc quitté le palais présidentiel dimanche dernier et ses partisans ont voulu l'accompagner jusqu'à sa résidence privée.
Oui, effectivement, des milliers de personnes s'étaient rassemblées dimanche devant le palais de Barabda, une ville située sur les hauteurs de Beyrouth. Quelques dizaines d'entre elles étaient même arrivées dès samedi soir, campant sur place pour être au premier rang dimanche. Mais il faut relativiser tout de même l'ampleur de ce rassemblement. C'était là des partisans du président sortant, des chrétiens maronites, qui eux lui restent fidèles. Mais on n'était pas au niveau des grands rassemblements qui ont marqué ces dernières années, comme lors de la révolution d'octobre 2019, ou après l'explosion du port de Beyrouth. Et puis surtout, on était loin d'une parfaite représentation de la société libanaise dans toute sa diversité. Si Michel Aoun a quitté le palais présidentiel dimanche, journée chômée plutôt que lundi, qui était en fait le dernier jour officiel de son mandat, c'est précisément pour avoir une foule. Il savait que le lundi, le nombre de personnes présentes serait bien inférieur. Et l'un des indicateurs de la popularité en baisse de Michel Aoun est le résultat de son parti aux dernières élections législatives. C'était en mai dernier. Il a perdu plus d'un quart des sièges qu'il avait dans la précédente assemblée.
Mais pour autant, Michel Aoun conserve une base d'électeurs fidèles.
Alors en effet, et malgré le fait que son mandat, comme le rappelait Blaise, ait été marqué par une crise économique sans précédent, l'explosion du port de Beyrouth aussi, catastrophe nationale, mais pour beaucoup de ses fidèles du désormais ex-président, Michel Aoun était le chef de l'État, mais aussi un ancien militaire. En tant que lieutenant-colonel, il avait défendu le palais présidentiel lors de l'invasion israélienne en 1982. Devenu commandant de l'armée en 84, alors que le Liban était en pleine guerre civile, il a ensuite combattu l'occupation syrienne, et c'est sur ces faits de guerre qu'il a construit sa popularité. Je me souviens par exemple d'un échange que j'ai eu il y a quelques mois avec l'un de ses partisans à Beyrouth. Il reconnaissait que le chef de l'État, aujourd'hui âgé de 87 ans, avait perdu la main, mais il restait attaché tout de même au chef militaire que Michel Aoun avait été.
Alors Michel Aoun a quitté le palais présidentiel, son mandat s'est achevé lundi soir et depuis le Liban n'a plus de président. Pourquoi son successeur n'a-t-il pas été élu avant son départ ?
Eh bien, c'est dû à la complexité du système politique libanais. Le président est constitutionnellement un chrétien maronite, mais son élection par les députés elle nécessite un soutien d'élus sunnites et d'élus chiites également. Et au-delà de la division religieuse, il faut aussi créer des alliances entre les blocs politiques. Michel Aoun, par exemple, avait constitué une alliance avec le Hezbollah, formation chiite, alliée à la Syrie de Bachar el-Assad et à l'Iran. Mais ce bloc a perdu des sièges aux dernières élections et ne possède plus la majorité. Face à lui, il a des formations plus proches de l'Arabie Saoudite, le grand rival régional de l'Iran, ou plus souverainiste, ainsi que des députés qui sont eux issus de la société civile et du mouvement de contestation qui a touché le pays en octobre 2019. Donc des élus qui sont fondamentalement opposés au système actuel. Et créer une alliance entre ces différentes tendances pour parvenir à une majorité, eh bien c'est une tâche très compliquée. Le Parlement a déjà tenu 4 séances consacrées à l'élection d'un président, mais sans y parvenir. Cette situation n'est d'ailleurs pas inédite dans l'histoire du Liban. Le mandat de Michel Aoun avait commencé en 2016, mais il aurait dû débuter en réalité en 2014. Son élection avait pris 2 ans et elle avait nécessité 46 tours de scrutin, rien que ça. Les responsables libanais affirment aujourd'hui leur volonté de ne pas en arriver là et de procéder rapidement à cette élection, d'autant que ce qui est inédit dans la situation actuelle du Liban, eh bien, c'est qu'il n'y a ni président ni gouvernement de plein exercice, car les mêmes difficultés s'appliquent aussi à la formation d'un gouvernement. Et depuis les législatives de mai, eh bien, les formations ne se sont pas entendues sur un programme de gouvernement ni sur une répartition des postes. Et c'est donc toujours l'exécutif d'avant qui expédie actuellement les affaires courantes.
Merci Guilhem Delteil pour cet éclairage. Blaise, bonne journée à Boisflay. Qui pour succéder à Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National? Deux candidats sont en lice, Louis Alliot et Jordan Bardella. On connaîtra demain le nom du vainqueur après le dépouillement des votes des militants. Lamine, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Banjul. Pierrick Bonneau m'a rejoint en studio, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste au service politique de RFI. Lamine, on vous écoute, c'est à vous.
Je disais que toute cette semaine, les membres du Rassemblement National ont choisi leur nouveau président. Pour quelle raison Marine Le Pen ne se présente-t-elle pas pour diriger le RN depuis 10 ans, alors qu'elle dirigeait le RN depuis 10 ans? Et qu'est-ce que ce changement de président peut apporter au parti?
Alors Pierrick, pourquoi Marine Le Pen veut-elle confier les rênes de son parti à quelqu'un d'autre?
Très bonne question. Globalement, Marine Le Pen considère que ce n'est plus de son niveau, en fait, les affaires d'un parti. Elle va se présenter très vraisemblablement pour la quatrième fois consécutive à la présidentielle de 2027. Donc elle se prépare. Ça, c'est ce qu'elle ne dit pas. Ce qu'elle dit, en revanche, c'est qu'elle ne se présente plus, qu'elle ne se représente pas à la présidence du RN pour se consacrer au groupe Rassemblement National à l'Assemblée, hein, 89 députés dont la majorité avait peu, voire pas du tout fait de politique avant juin dernier. Et ça prend du temps, ça lui demande beaucoup d'énergie, ça donne des députés, effectivement, ces 89 députés qui n'ont pas forcément les codes, hein, qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas à l'abri de dérapages. On l'a encore vu hier, hein, c'est l'actualité du jour, hein, avec ce député RN qui a tenu des propos racistes en pleine séance. Voilà, il faut cadrer tout ce monde-là, ça prend du temps, officiellement, c'est ce qu'elle nous dit. Et puis, effectivement, il y a une autre ambition derrière, hein, qui est la présidentielle de 2027. En fait, Marine Le Pen veut tout simplement se mettre au niveau d'Emmanuel Macron. Et pour se mettre au niveau d'Emmanuel Macron, eh ben, faut pas s'occuper de la tendance du parti. Hein. Il faut faire autre chose.
Il faut prendre de la hauteur. Qu'est-ce que ce changement de président peut apporter à l'avenir du parti?
Mais globalement, ça va pas changer grand-chose. C'est deux marinistes qui se présentent. Ce sont deux marinistes qui se présentent pour prendre la suite de Marine Le Pen. Jordan Bardella, Louis Alliot, avec un Jordan Bardella ultra favori. Hein. C'est lui qui va vraisemblablement, selon toute vraisemblance, être élu demain à la présidence du parti. Et c'est son poulain. Donc c'est finalement Marine Le Pen qui va garder les rênes du parti, qui va continuer à décider de la ligne. Le RN est un parti autoritaire, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Hein. Bonapartiste, hein, aiment dire certains cadres du RN. C'est la chef qui décide tout et puis c'est tout. Hein. Gare à ceux qui ne seraient pas d'accord. C'est ce qui risque de continuer de se passer avec Jordan Bardella. Et même si Louis Alliot est élu, ce sera la même chose. Marine Le Pen qui va continuer à tirer les ficelles, hein, derrière tout ça. D'ailleurs, les quelques voix dissidentes qui se faisaient entendre ont quitté le parti. Hein, je pense notamment aux députés européens. Nicolas Bay, qui a rejoint Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Voilà, plus de dissidence. Marine Le Pen qui ne sera plus officiellement présidente du parti, mais qui va continuer à gérer la ligne, en tout cas, du Rassemblement National.
Et il n'y a vraiment pas de différence entre Jordan Bardella et Louis Alliot?
Alors, ce ne sont pas non plus des copies conformes. Hein. On l'a vu pendant cette campagne interne. Louis Alliot qui a reproché à demi-mot et sans le citer à Jordan Bardella d'être un peu trop partisan de la théorie du grand remplacement, une théorie chère à Éric Zemmour. Jordan Bardella, en fait, est plus jeune, mais aussi plus radical que Louis Alliot. Et s'il y a un homme qui peut nouer des alliances en dehors du Rassemblement National, notamment avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, c'est bien Jordan Bardella. Hein. On sait notamment qu'il avait tenté de débaucher le jeune Stanislas Rigaud, un membre de Reconquête, avant les législatives. Ce sera d'ailleurs tout l'enjeu de 2027. Hein. Est-ce que le Rassemblement National, est-ce que le RN va parvenir à élargir son socle électoral à gauche, mais aussi à droite, pour aller chercher les quelques centaines de milliers de voix qui lui manqueront pour accéder à l'Élysée.
On connaîtra le nom demain à quelle heure?
Demain, 11h30, Chantal.
Eh bien, on suivra cela avec vous sur l'antenne. Merci Pierrick Bonneau, à très bientôt. Lamine, bon week-end à Banjul.
Merci beaucoup.